Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Cette semaine, des annonces d'Adobe, GoPro lance la gamme Hero 4 et 9 choses à éviter en photo de paysage. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 65. Au micro en compagnie de François Blanchette.
Salut Stéphane.
Et Christian Jarry.
Salut Stéphane.
Alors messieurs, qu'avez-vous fait récemment côté photo?
Je vais y aller en premier.
Rien.
Rien?
Non, bien occupé ces temps-ci, j'ai pas eu le temps. J'ai des contrats qui s'en viennent possiblement, mais pour le reste, j'ai rien.
Ça arrive.
Écoute, on doit être connecté cosmiquement parce que j'ai rien fait non plus. Par contre, je me dis justement, il serait temps que je fasse quelque chose avec mon 7D, que j'ai toujours le même boîtier depuis 4 ans déjà. Et n'empêche que, parce que de plus en plus, je fais des photos avec mon smartphone.
Ouais.
Pourquoi? Ben parce que j'ai tout le temps avec moi.
C'est pratique.
Ouais.
Et c'est pratique, ça, tu sors ça de ta poche, je clique, c'est fait. Par contre, je suis en train de perdre un peu le goût de faire
Tu perds le réflexe?
Ah!
Ouf, travaille là, Stéphane.
J'adore comment tu as déclenché ta joke. C'est vraiment au bon moment.
Oh! <C'est>... Oh boy!
Et puis...
Les gars, faudrait qu'on retrouve le focus, là.
Oui. OK, on se prend un podcast d'humour.
Ah ouais, ouais. Merci d'avoir mis la lumière sur nos agissements, Christian.
Ça peut descendre encore longtemps.
Fait que c'est ça, c'est je me dis bon, je retourne à faire de la photo avec mon appareil 7D parce que bon, pour l'instant c'est ça que j'ai. Comme j'ai mentionné dans le dernier épisode, je me pose des questions aussi sur mon appareil.
Je
continue avec les objectifs que j'ai ou je m'en vais vers autre chose. Encore une fois, quand je vois les photos de ton A7,
Il est tentant.
Ouais. D'autant plus que le A7S est une bombe de vidéo aussi en 4K.
Oui.
Donc, moi, je pourrais m'en servir aussi professionnellement. Donc, je commence à me poser des questions.
Et tu serais prêt à sacrifier quelques mégapixels pour parce qu'il est quand même juste 12 mégapixels. Hein? C'est pour ça qu'ils réussissent à monter l'ISO aussi haut.
Moi, j'ai pas besoin d'avoir plus que 12 mégapixels.
Parce
pas
que
du tout.
Généralement, là, nos photos, même les miennes, ça va sur le web. Là, on s'entend.
Non, non, je fais pas de sortie grand format avec les photos que je prends. C'est un hobby.
C'est ça.
Fait que c'est... Mais bon, je suis pas encore là. Il faudrait que je l'aie entre les mains. Là, que j'ai...
Non, je te le prête pas. Ah.
Puis de toute façon, non, oui, c'est pas une bonne chose.
Non, mais là, cette S, il est encore plus cher. Il est comme 2500.
Oui, mais moi, je peux le rentabiliser.
Oui, il y a ça.
Je peux m'en servir comme appareil vidéo, comme deuxième caméra.
Oh, mais attention, qu'est-ce que les gens vont penser quand tu vas arriver avec un appareil sans miroir? Tu n'auras pas l'air professionnel.
Non, c'est de plus en plus. Si je pense en vidéo, encore une fois, la Blackmagic, c'est des caméras qu'on voit de temps en temps. Ils sont connus. Mm-hmm. C'est pas des caméras qui sortent de nulle part. Il y a des gens qui savent exactement ce que tu fais avec ça. C'est du cinéma. Ils l'appellent la Blackmagic Cinéma. Donc, la A7S, au contraire, elle est assez convoitée, je te dirais, pour ce qu'elle peut faire.
Mais du côté photo, tu vois, les photographes de mariage ou les photographes professionnels ont encore une réticence. Ils appellent ça le théâtre de la photo. Là. C'est vraiment. Il faut que tu arrives avec un plus gros boîtier que tes clients.
Faut t'impressionner.
Je comprends la raison pour ça. Puis il y a aussi une question d'efficacité. Je suis pas sûr que la A7 ou A7S va être aussi rapide quand ça va être le temps de faire des réglages rapidement.
Les réglages, oui, mais l'autofocus un peu moins.
Oui, bon.
Mais
ça, c'est, pour moi, c'est négligeable, à moins de faire du sport. Là, mais
Encore là, on s'habitue, puis ça devient...
Je serais surpris pour avoir fait deux mariages. Quand tu as besoin de prendre la photo des mariés qui sont en train de s'embrasser, tout ça, il faut qu'elle soit au focus, puis il faut qu'elle soit vite en tabarnak.
Oui, mais François, il travaille en focus manuel aussi.
Non, mais moi, je te dis... Oui, je sais, mais il parlait que...
Non, mais en photo, je suis d'accord.
C'est vrai que ça peut avoir son influence, son importance aussi.
C'est vrai, c'est vrai.
Absolument.
En tout cas, tout ça pour dire que je pense à ça.
On ira faire de la photo à un moment donné, puis je prendrai ton boîtier, tu prendras le mien. On s'amusera. Moi, je retrouverai un réflexe que j'ai plus depuis 6 mois au moins. Puis toi, ben, t'expérimenteras pour voir si en peut-être 2 heures, tu sais, pas un 10 minutes, là, mais quelques heures, voir en faisant plusieurs photos, en jouant avec les réglages, mm-hmm. puis en te familiarisant si justement l'autofocus est à la hauteur ou si juste le feeling d'avoir un viseur électronique, ces mm-hmm. choses-là. Mm-hmm. Mais d'ailleurs, c'est ouais. ça, on est, ça mijote un peu, là. Peut-être qu'éventuellement, là, l'automne est pas mal installé, mais en tout cas, peut-être si on a le temps, je vais peut-être organiser une espèce de petit photo walk, là, parce que il y a les amis Benoît Gagnon, Caroline Cloutier, tout ça. On veut aller faire de la photo, là, puis
ça sera le fun.
Ça pourrait devenir un photo walk, carrément.
Bon, donc, parfait.
On verra ça.
On va suivre ça.
Mais juste, ça sera pas là. Mais tu dis, toi aussi, tu penses à changer. Puis ça, c'est sûr que moi, avec, honnêtement, quand je regarde la 7D et Mark II, ça me tente. Question rapport. Parce que oui, j'aimerais savoir une 5D Mark III, mais j'ai pas les finances pour.
Mm-hmm.
Je suis pas capable de le justifier. Mais je regardais, puis il a commencé à sortir des épreuves de la 7D Mark II. Puis tu regardes des images en 12800 ISO, puis tu fais comme
wow.
Oh my God.
Ouais, je sais, j'en ai vu passer.
C'est impressionnant. C'est le niveau de bruit, il est vraiment là. Pas tant que ça. Là.
Si on part de loin, là, toi puis moi. Là.
Oui, à 1600, moi, je commence à avoir du bruit. Là.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, je regarde ça, puis il parlait d'un boîtier de sol à 1600. Je suis comme, ben, pour moi, ça serait pas pire, là. La 5D, c'est le double, là. Fait que, ouais. Tu sais, je garderais ma vieille 7D pareil, puis j'aurais l'autre. Ça commence à m'intéresser. Ça me parle. Peut-être dans un an.
Ben oui.
Je suis pas Stéphane. Moi, je suis obligé d'attendre un peu.
Oui, mais moi, je m'en sers pour mon travail. Là. C'est pas pareil. François aussi, s'il change de boîtier, il va pas avoir le même pincement au cœur côté budget parce qu'il peut justement le rentabiliser.
Dit. Oui, je sais, mais on change pas de pareil photo à tous les mois, là, nous autres. Là.
Moi non plus. Ma résolution de 2014 tient toujours. Hein. J'ai pas
il reste encore
d'appareil.
Quelques mois.
Oui, c'est ça.
Il reste deux mois, hein, mais la résolution tient toujours.
Une chance qu'il avait spécifié « appareil ».
Ben oui, acheté deux objectifs, c'est tout.
Rien que ça. Puis toi, Stéphane, qu'est-ce que tu as pris en photo?
Ben moi, j'ai pris des photos de baptême, le baptême de mon filleul. Mais je les ai pris uniquement au 55 mm. C'était pas un défi que je m'étais lancé, c'est que dans une église, forcément, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc j'ai dit, je vais apporter le 55 mm f1.8. Et j'étais souvent à f2, f2.2. J'essaie. C'est parce que tous les objectifs, quand tu es ouvert au maximum, tu n'as pas nécessairement le meilleur piqué non plus. Fait que j'essaie toujours de fermer un peu, au moins d'un demi-cran, des fois d'un cran si je suis capable. C'est pour ça qu'au Comic-Con aussi, j'étais à f2.5, f2.8. Donc, j'essaie d'avoir un cran complet de fermeture pour aller chercher un peu plus de piqué dans mes photos. Mais en tout cas, j'ai pas de photos du baptême à publier. Ça va peut-être être un des rares épisodes où personne n'a de photo à publier dans les notes, mais en tout cas, c'était des photos plus familiales et tout ça, donc c'est pas vraiment d'intérêt non plus.
Non, mais ça peut, en tout cas, je sais pas pour toi, mais filmer dans une église ou photographier dans une église, c'est pas ce qu'il y a de plus facile.
Non, et en plus, ben j'étais le parrain. Donc, j'étais le parrain et photographe en même temps.
Oh boy, ouais, là, ça c'est encore pire.
Ben là, il y a ma fille qui a pris des photos pour moi. Elle aime ça, faire de la photo, puis elle en a pris des bonnes.
C'est bien. Tu as déjà une relève, c'est bon?
Oui, oui. Donc...
une future co-animatrice?
Ben, ma fille, depuis qu'elle a 3 ans, elle prend à l'occasion des photos comme de nous en vacances.
Ah, c'est comme ça que tu te débarrasses de tes vieux appareils?
Oui. Ben oui, j'ai une acheteuse. Non, c'est pas vrai.
oh my God!
Trêve de plaisanterie. On va passer aux nouvelles. Christian, toi, de ton côté, tu avais une petite nouvelle du côté de Panasonic.
J'ai vu Panasonic annoncer un appareil photo intéressant.
Mm-hmm.
Mais en fait, c'est pas vraiment un appareil photo.
Non, mais c'est quoi?
C'est un téléphone intelligent, mais avec un capteur de 1 pouce. On s'entend que c'est assez gros. Et un objectif Leica. Fait que c'est quand même pas si mal. Là. C'est sûr et certain que, bon, comme c'est c'est quand même un peu plus un téléphone intelligent qu'un appareil photo. Donc, on a un objectif fixe de 28 mm, 2.8, ce qui est quand même très respectable avec un capteur quand même assez gros. C'est un 20 mégapixels et voilà, puis ça va être le petit bout pour mon ami à côté de moi, François. Il fait du vidéo 4K aussi.
Ah oui, mais Panasonic, hein, avec le GH4 aussi, ils sont tombés dans le 4K, pas à peu près. Là.
Tout est configurable, que ce soit l'ouverture, l'ISO, la vitesse d'ouverture, on peut tout le faire à partir du Il y a un anneau autour de ton objectif que tu es capable d'une bague, exactement, c'est ce que je cherchais. Puis évidemment, ben, le reste, c'est un téléphone intelligent quand même assez standard. Là, on parle d'un écran de 4.7 pouces Full HD.
Mais c'est un véritable téléphone, c'est pas comme l'Android là, qu'on avait. Le Samsung qu'on avait testé. Là, qui...
C'est vraiment. Je pense que ça ressemble plus c'est au. Semblable. Ça ressemble plus au le Lumia 920, en fait, qu'un.
OK.
L'appareil photo de Samsung.
Okay.
Tu sais, comme je disais, là, on parle d'un écran 4.7 pouces Full HD, un quad-core Snapdragon de 2.3 GB, 2 GB de mémoire, 16 GB interne, micro SD. C'est quand même pas si mal là, avec Android 4.4 dedans. Seul défaut, pour le moment, on parle de seulement France et Allemagne.
C'est ça que j'allais dire. Si tu allais dire autre chose, j'allais dire, oh, je pensais que tu allais dire que c'est seulement disponible en Europe, mais... France et Allemagne.
France et Allemagne.
Pas d'Amérique du Nord pour le
non.
moment.
C'est dommage parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que c'est pas... Ouais. Vous verrez les photos quand on va le publier, mais il est pas si gros que ça. Il est pas minuscule, là. Je dirais pas que... Il est pas élégant non plus, un peu comme... Ben, un peu comme je disais, le Lumia, il y avait comme une bosse à l'arrière puis tout ça. C'est sûr ouais. que t'es limité.
Ben, c'est un
limité,
peu
là,
un hybride entre, justement, un appareil photo compact et un téléphone côté look,
ouais.
je dirais.
Oui, oui. Mais
oui, effectivement, il rappelle pas mal la forme du Lumia 1020.
Mais c'est ça. Tu sais, je trouvais ça quand même intéressant. Là, je sais pas qu'est-ce que ça donne comme les performances et tout, mais l'intérêt est là.
Mm-hmm. À suivre. Toi, François, de ton côté?
Ben, de mon bord, il y a Photoshop qui apparaît maintenant à 100% dans le nuage avec sa version pour Chromebooks.
Oh.
Bon, si vous ne savez pas c'est quoi là, les Chromebooks, puis leur système d'exploitation Chrome OS, l'idée c'est de créer un système d'opération qui fonctionne pratiquement à 100% en ligne ou dans le nuage, là, mm-hmm. comme vous voulez. L'avantage, on n'a pas besoin d'un gros processeur parce que tout le travail se fait sur le du côté serveur. Donc, mm-hmm. pas chez vous. Dans le nuage, dans les gros serveurs de Google. Ça fait longtemps qu'on parle de cette façon de faire-là, puis tranquillement, ben, on voit apparaître des gros joueurs qui décident de rentrer dans le système du nuage, là, justement, de la, du cloud
moi,
computing.
Ça me fait rire un peu parce que c'est, dans le fond, en réalité, le retour au mainframe qu'il y avait dans
oui.
les années 70, genre. C'est...
Sauf que le mainframe, l'ordinateur central, se retrouve pas dans les bureaux à côté de toi.
Ouais.
Où, t'sais,
ouais. Mais sont... t'sais, ça reste quand même que tu avais ouais. une grosse intelligence puis un dumb terminal,
ouais.
comme il appelait
un client ou
un client peu intelligent.
Ouais.
Ouais,
mais ce qu'il appelle, ça existe encore, c'est des clients
ouais.
légers là, dans les écoles et ces trucs-là. Là, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose sur l'ordinateur, puis c'est tout relié à un système central.
Ben, mais... il doit y avoir quelque chose là. C'était une bonne idée à la base, je crois, parce qu'on y revient.
Fait ben que... oui. Ben maintenant, les tuyaux sont assez gros.
Ah oui,
c'est
oui.
Ça,
oui.
C'est ça. Honnêtement, c'est tout le problème est là. C'était juste ça, là.
Fait que l'avantage d'aller dans le nuage pour Adobe, ben on parle de Photoshop là, pour l'instant, c'est que, bon, ça, c'est les mêmes raisons qu'on avait déjà entendues. Ça va toujours être à date, le logiciel.
Mm-hmm.
Ça va offrir exactement les mêmes fonctionnalités que la version maison, si on peut dire, okay. la version client.
Donc, une version complète.
Exactement.
Desktop,
puis, l'intégration elle va être totale avec Google Drive. Si vous êtes avec des services Google, vos fichiers vont se travailler là, instantanément. Là, il s'agit de les uploader. Mais une fois que c'est uploadé, ben, les retouches vont se faire instantanément. Ça va être vraiment très, très, très rapide. Adobe mentionne que c'est juste le début. On va s'attendre probablement à court, à moyen terme, à d'autres logiciels de leur cru. Qui vont faire
c'est
leur
vraiment la
chez
suite
Chrome.
Photoshop comme...
Total, oui.
Ouais, mais c'est pas la suite, c'est le
non,
logiciel.
Non, mais je veux dire le logiciel
le logiciel.
Photoshop
ouais.
en tel.
Bon, éléments, Adobe Premiere, tout ça, j'imagine que c'est dans les plans de faire la même chose.
Ouais, ça doit être un... Ils lancent un ballon d'essai, puis on verra qu'est-ce que ça donne.
Ben, un peu comme avec la Surface Pro 3 de Microsoft, la tablette. Adobe a fait une version de Photoshop qui s'adaptait un peu plus aux écrans tactiles, donc les trucs un petit peu plus gros, l'interface un peu plus grosse pour appuyer avec un doigt au lieu d'un pointeur de souris. Donc, ils s'en vont vraiment attaquer tous les fronts.
Ouais, j'ai vu qu'il y a des chanceux qui s'en sont fait donner, d'ailleurs.
Oui, à Adobe Max, dont c'est ça, je vais en glisser un petit mot tantôt. Mais oui, tous ceux qui assistaient à la conférence Adobe Max le 6 octobre dernier se sont vus remettre une petite tablette Surface Pro 3 qui, dont le modèle un modèle de base ou en tout cas moyen.
Un terabyte
de stockage, ouais. Donc, on parle d'une valeur de plus de 1 000 $ là, et ça coûtait quoi, 1 500 $ s'inscrire pour la conférence, donc c'est assez rentable, disons. Quoi.
Quand même.
Donc, ben c'est ça. Puis parlant toujours d'Adobe, il y a eu d'autres annonces. Adobe a lancé Photoshop Elements 13 et Premiere Elements 13. Donc, au cours des 2 dernières années, on avait testé les itérations 11 et 12. Et on pourra sûrement tester la version 13 cette année encore. La demande a été envoyée. Donc, j'attends une réponse à ce sujet-là. Évidemment, je ne commencerai pas à énumérer les changements. On pourra faire ça dans un test plus officiel. Mais on parle Photoshop Elements ou Premiere Elements. On parle de 80 $ américains. Et pour l'ensemble, les deux logiciels ensemble, on parle de 120 $ américains. Donc, on peut s'attendre peut-être à 150 $ ici, là, côté canadien. Et en euros, ben, ça va tourner dans ces eaux-là. Il y a eu, comme je disais, la conférence Adobe Max, où Adobe en a profité pour annoncer un paquet de nouveaux logiciels, de nouvelles fonctionnalités, une meilleure intégration web dans le cloud et tout ça. Donc, on a des applications mobiles. On a Illustrator, Line et Draw qui ont été annoncés. On a Photoshop Sketch et Mix. On a Premiere Clip qui est nouveau sur mobile, sur iPhone et iPad. On a Clip qui va permettre de faire de l'édition vidéo, ajouter des effets de ralenti, des transitions, toutes sortes d'affaires comme ça. Donc, les vidéos qu'on enregistre souvent dans nos téléphones ou nos tablettes, on va pouvoir les éditer à même le téléphone ou la tablette. Donc, pas obligé de passer par Premiere nécessairement. Hmm. À part ça, il y a des applications. Les applications du Creative Cloud vont mieux communiquer entre elles. Donc, on va pouvoir partager aussi avec... faire de la collaboration, du travail collaboratif, créer des nouvelles brosses, des nouvelles formes, des nouvelles couleurs. Il y a des applications qui vont permettre, comme Adobe Color, qui s'appelait Cooler avant, là, K-U-L-E-R, qui permet carrément, avec son appareil, son téléphone ou sa tablette, de prendre une photo ou simplement capturer une couleur et l'envoyer pour se faire une palette de couleurs compatible dans Photoshop et compagnie. Donc, c'est vraiment...
J'imagine design d'intérieur. Comme ça, c'est vraiment cool comme outil, ça.
Oui, on va pouvoir créer justement des brosses pour ceux qui font du dessin ou de la peinture numérique, ces choses-là. Il y a vraiment, pour se créer des librairies partagées aussi entre les utilisateurs, vraiment, l'intégration cloud est vraiment poussée au maximum là, en ce moment. Donc, beaucoup, beaucoup d'annonces. Il va y avoir, on a parlé de la version de la Surface Pro 3 là, de Photoshop qui intégrait le touch et tout ça, une interface adaptée au touch. Il va y avoir la même chose pour Premiere Pro et After Effects. Et il y a Illustrator Touch Workspace aussi qui va avoir une intégration de l'aspect tactile et tout ça. Là. Beaucoup, beaucoup d'annonces pour cette conférence-là Adobe Max. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent.
Ouais, donc, on se rapproche de... C'est quoi le film avec Tom Cruise? Là,
Minority Report.
Ouais, on se rapproche de ça là, parce que éditer un fichier vidéo avec en touchant l'écran, ça commence...
Même pas besoin de gants comme dans Minority Report. C'est vrai, lui, il avait des gants pour son écran. Nous, c'est directement, même avec les doigts. Puis, c'est ça, il y a Creative Cloud Extract, donc qui permet dans Photoshop de sortir des couches, des layers, puis les envoyer dans d'autres trucs. En tout cas, c'est... Il y a vraiment beaucoup de choses. Le service Behance, qui est l'hébergement d'images ou de fichiers ou même de portfolios sur le web... Ça va permettre maintenant la recherche de talents par portfolio, par école de design, par un paquet de critères de sélection. C'est vraiment... En tout cas, si vous n'avez pas un forfait Creative Cloud pour la photographie, l'offre est encore bonifiée en ce moment, juste avec Photoshop. Puis Lightroom mobile aussi qui avait été lancé il n'y a pas si longtemps. L'intégration est toujours aussi bonne, surtout sur iPad, évidemment. Là, il est disponible sur iPhone, mais... Je me vois mal commencer à vraiment traiter mes photos sur un iPhone.
Ben, peut-être le 6 Plus.
Le 6 Plus, c'est ce que j'allais dire, à 5,5 pouces.
Ouais.
Mais encore là, c'est limite. T'sais. vraiment pour voir ta photo, à moins qu'elle aille seulement sur le web, mais tu sais, si tu veux travailler une photo...
Non, non, on s'entend. Non, là,
ça prend au moins un iPad.
Il y a des outils minimum.
C'est
là,
ça. Avoir. Mais ça peut permettre, des fois, juste de faire une présélection de tes photos quand tu fais un shooting, absolument. Justement,
ouais.
Et qu'avec le Wi-Fi, tu as pu le transférer sur toi. Excuse-moi, Christian, c'était correct. Trop facile. Mais non, c'est ça.
Non, donc, mais regarde, tu vois, avec Apple, ce qu'ils ont annoncé, la continuité là, que tu vas pouvoir prendre... quelque chose que tu fais d'une place à l'autre. Fait que tu pourrais le prendre peut-être, comme tu disais, tu sélectionnes dans ton iPhone, tu flushes celle que tu n'aimes pas, tu arrives à côté de ton iPad, puis paf, tu le transfères super simplement dans l'iPad. Puis oui. C'est sûr. Regarde, il y en a des avantages. J'y vois, c'est sûr, là, mais oui. Je suis pas convaincu à 100%. Seigneur.
Ça viendra.
Mais c'est correct, regarde, on est souffre-douleur. Toi, tu es souffre-douleur pour une chose, moi aussi, puis Stéphane aussi. C'est correct.
François.
Ben oui. Stéphane puis Stéphane.
Oui, c'est François, je voulais dire.
C'est bon. Bon, donc, beaucoup d'annonces d'Adobe. On va laisser la chance aux autres aussi. François, de ton côté, toi, tu avais une petite annonce d'un appareil que tu aimes bien, d'une entreprise que tu aimes bien.
Ben oui, GoPro, qui fait les caméras Hero. Et oui, la caméra version numéro 4 est sortie. Ça va extrêmement rapidement, là, parce que là, on a eu la 3+.
Ça me semble que ça fait même pas un an.
Ben c'est ça. C'était un entre-deux, ça fait 6 mois probablement. Ouais, je n'ai pas regardé les dates, mais on a eu la 3 l'année dernière, la 3+, peut-être au printemps, puis là, on a la 4.
Bon, pour ceux que ça intéresse, la Hero 4, il y a l'itération Silver et la Black. Il y a aussi une autre version qui va être vraiment très de base à 130$ environ, qui a des fonctions minimes.
Pour initier les gens au monde de
Oui,
de
ou
GoPro.
Ceux qui n'ont pas des besoins HD, j'imagine. Oh, je ne sais pas si ça va faire du HD.
Elle fait du HD, mais c'est pas, on n'a pas du 120 images secondes.
Bon, ben c'est ça. Il y a des comment je pourrais dire, des utilisations qui justifieraient absolument d'acheter une caméra à 130$. Et d'autres utilisations que là, bon, il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus. Si je vais avec la Hero 4 version Silver, il y a un écran tactile intégré. Ça, c'est vraiment une nouveauté.
C'est une première
chez GoPro. Mmh. Oui, absolument.
Il était temps, parce que tu sais, c'est rendu la norme maintenant.
Ah oui? Parle-moi-en en plus.
Non, c'est correct.
Okay. Donc, écran tactile intégré, c'est quand même intéressant. Ça va rapidement, pour aller surfer les menus, ça va être, au lieu de passer par l'application ou de pitonner avec les deux pitons de la GoPro ou trois pour aller sélectionner des fonctions, ben ça va être rapide. Ça, je trouve ça bien.
Mais il y a toujours le fameux petit écran monochrome à l'avant, là, mais à l'arrière, il y a
Oui, mais l'écran monochrome est juste un écran témoin. Oui,
c'est ça. Non, c'est pour juste sélectionner les modes. Là, comme
c'est ça, ça va rapidement.
Mais
c'est ça. Elle va être capable de faire, là, je parle toujours de la Silver, du 1080p à 60 images secondes. Si on peut monter à 120 images secondes, mais il faut descendre à 720p.
C'est respectable.
Oui, c'est respectable. Mais on a un projet qui est tout en 1080, si on fait des ralentis à 720, malheureusement, on est obligé de soit d'agrandir l'image, perdre la résolution, ou de voir le carré plus petit.
Là, non, mais moi, ce que je le vois, probablement, la Silver, c'est du monde qui vont, mettons, en ski ou qui vont faire des affaires de même. Je les vois utiliser ce genre d'appareil photo là, plus que l'autre, mais...
Ben,
tu sais, c'est parce que avec l'écran tactile, avec ci, avec ça risque d'être quelque chose qui est très commode.
T'as raison. Côté manipulation, avec les gants puis tout ça...
Oui, puis ça coupe le besoin d'avoir un téléphone puis de passer par l'application pour voir qu'est-ce qui se passe dans la caméra.
Effectivement, là. Ça évite quand même. Tu sais, il y a déjà des écrans qu'on peut ajouter là, sur le GoPro, mais bon, vu que c'est intégré, on n'est pas obligé d'agrandir le boîtier, de mettre le nouveau couvercle.
Fait
que
c'est moins de coûts aussi, j'imagine.
Oui, mais si on parle de prix, là, tout de suite, c'est 399$ la Silver. Mm. Bon, la prise de photo, c'est 30 images secondes à 12 mégapixels. C'est rapide.
C'est une rafale.
C'est une rafale vidéo.
C'est de la rafale. Ça, ouais.
Et comme les autres GoPro, Hi-Fi, et il y a Bluetooth. Maintenant, tu vois, ça c'est nouveau, je pense. La Bluetooth, il l'avait pas sur.
Généralement, c'est juste pour faire le jumelage, le Bluetooth sur ces appareils-là.
Trop lent pour transférer.
Oui, c'est ça.
Bon. Et la version Black, qu'est-ce qu'elle a de plus? 100$ de plus. Mm-hmm. Pour 100$ de plus, qu'est-ce que vous allez obtenir? Ben,
pas d'écran.
Pas d'écran.
Avec pas d'écran.
Avec pas d'écran, elle va être 4K à 30 images secondes en 4K. Ça, c'est.
Ouais, ça commence à être pas payé, ça.
Exactement. Il y a aussi la version 2.7K, à 50 et 1080p 120 images secondes.
Ça, fait des beaux ralentis.
Ça fait des beaux ralentis. En full HD, 120 images secondes, c'est super.
Ouais.
Elle va être deux fois plus performante qu'on dit, le processeur étant deux fois plus rapide que les autres processeurs des autres séries de la Hero 4. Photo, même chose, encore 12 mégapixels, 30 images secondes. Puis Wi-Fi et Bluetooth. Donc, c'est pas un gros upgrade, mais pour ceux qui ont besoin de faire, par exemple, de la vidéo à 4K en 30 images secondes...
C'est un gros changement.
Oui, oui, là, c'est professionnel. Là. Ouais. 4K, on n'a pas encore ça à la maison. Là, tout le monde a une télévision 4K. Là,
non, c'est que, ça. Et on se réécoutera dans 3 ou 4 ans. Puis,
oui, oui, c'est ça. La mais en comment photo, filmer en 4K, ça va te permettre de aller zoomer dans l'image sans perdre la résolution. Tu vas pouvoir aller chercher un fichier 1080 à partir d'un 4K en allant chercher, je dis par exemple, je sais pas moi, ça pourrait être, si on s'est mis en mode un peu trop large avec la GoPro, ben on va aller chercher l'action de plus près.
Il y a toujours trois modes là, qui sont super large,
large, medium et narrow, là, si je donne les termes anglophones. C'est ça. Donc, avec le 4K, ça nous permet de retourner en 1080 en s'approchant si jamais on a oublié de le faire. Mm-hmm. Fait que ça, c'est parfait. Je trouve ça super cool.
Puis ça vient en... Il y a deux versions de chaque édition. Là. Il y a le mode surf puis le mode musique. Donc, c'est l'espèce de d'attache, là, de clip, si on veut.
Les accessoires pour attacher.
Ouais, ben en fait, ça va te permettre d'attacher la caméra soit à un instrument de musique ou à... un harnais ou quelque chose là, pour faire du sport.
Ben,
comme
surfboard,
du surf,
c'est pour ça qu'il l'appelle surf, non?
Oui, absolument. Donc, mais du surf des neiges aussi.
Oh, pas pire, pas pire.
Donc, ben, merci François.
Mais c'est drôle qu'on parle de 4K parce que pour la première fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais justement, ben, c'était drôle, c'était une vidéo de GoPro que je checkais. Puis maintenant, sur YouTube, tu commences tranquillement à avoir l'option 4K.
Ah oui,
pas sur
oui,
toutes
oui,
les vidéos,
vrai.
Mais je
oui.
l'ai vu quelques fois.
Oui, j'ai fait jouer des vidéos en 4K. Ça prend toute une bande passante.
Je sais, oui, j'ai comme pas vu l'utilité par rapport à ça.
Tu les regardais à quelle résolution?
Ben c'est ça. C'est
exactement. En 1080.
C'est ça.
Ouais.
À part sur certains Mac, évidemment, mais il n'y a pas tant d'écran sur PC ou quoi que ce soit qui te permet de voir du 2.7 et encore moins du 4K. Donc, pour le moment, ben c'est intéressant que l'option soit là. Mais comme mais Netflix aussi, Netflix aussi diffuse certains trucs en 4K, mais il n'y a presque personne qui a un téléviseur 4K. Donc... Mais
ça va venir. Ben ça va venir éventuellement.
Mais
moi,
c'est fun de savoir que les fournisseurs sont prêts.
Oui,
en tout
c'est
cas,
ça.
Que quelques-uns sont déjà prêts pour ça.
Oui.
C'est...
Et mine de rien, ça risque d'accrocher plus les consommateurs que la 3D. Mais on ne rentrera pas
dans la 3 quoi?
C'est ça. Non, Christian, d'ailleurs, toi, de ton côté, tu avais des petits trucs photos à donner.
Oui, bien, des erreurs communes qu'on fait quand on fait de la photo de paysage.
Mm-hmm.
La première, ben, je pense que, encore, c'est pas nécessairement des trucs qui sont tous nouveaux, mais j'ai trouvé ça intéressant, c'est un petit article que j'ai lu, ce sont tous des petits trucs qu'on peut penser. La première, on en a déjà parlé dans le passé, je me rappelle très bien, mais à ne pas oublier, l'horizon.
Ah, la ligne d'horizon.
La ligne d'horizon. Parce que, oui, c'est très facile maintenant d'arranger ça en post-production, c'est sûr et certain. L'ennui, c'est que vous croppez, vous diminuez votre photo ce faisant.
Mm-hmm.
Et ça peut arriver des fois que votre sujet est plus centré de la même façon. Oui. Ça change votre photo.
Vous perdez, ça change le cadrage.
Exactement.
Là, donc,
oui, parce que si on a l'habitude de cadrer, tu sais, quand on prend la photo, si on ne cadre pas un petit peu plus large pour se donner une chance.
Voilà.
Si on l'accorde parfaitement pour se sauver du temps, tout ça,
ouais,
tout
on se dit, j'aurais pas besoin
ce qui est légitime.
Tout à fait légitime, ben là, on peut, ouais, c'est ça. Là, on va se rendre compte que quand on corrige l'horizon, on en perd un petit peu.
C'est là que je trouve intéressant des affaires comme sur ma 7D, j'ai un niveau électronique.
Mm-hmm.
Et c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus fréquent. Il y en a de plus en plus. C'est pas tous qui l'ont, c'est dommage, ça devrait arriver de plus en plus souvent. Mais le niveau électronique dans l'appareil photo peut vous aider si vous pensez que vous avez pas un œil parfait.
Mais tous les appareils hybrides, là, sans miroir et compagnie, avec viseur électronique, ils ont tous un niveau qu'on peut afficher là, à l'écran directement. Donc, il n'y a à peu près plus d'excuses là, de prendre une photo avec un horizon croche. Donc, Bon, ça m'est arrivé avec une photo sur iPhone.
Ah, oh, ça arrive toujours.
Ben, c'est ça. Mais j'avais juste pas pris les 30 secondes, 20 secondes nécessaires pour le redresser.
C'est ceux-là, souvent, qui tuent. C'est sûr que tu manques de temps. C'est là que tu fais l'erreur. Tu fais comme, bon. C'est pas grave. Vous pouvez toujours la recadrer, mais...
Non, mais c'est ça. C'est ce que je dis. C'est que c'était presque au niveau... Il y avait peut-être un degré, mais... Quand ça tu la regardes, ben oui, moi, ça m'agaçait, puis il y a quelqu'un d'autre qui l'avait remarqué aussi. J'aurais pu prendre, avant de la publier sur Facebook, j'aurais pu prendre 20 secondes, puis l'ajuster, la redresser, puis... Mais je l'ai pas fait.
Aller, Stéphane.
Je l'ai fait après, parce que quand la personne m'a passé le commentaire, ben j'ai dit, bon, quelqu'un l'a remarqué, alors voilà.
Évidemment. Autre chose, on utilise parfois le mauvais objectif. On a tendance à penser que si on est... une photo de paysage, on devrait avoir un objectif le plus large possible.
Mm-hmm.
C'est pas toujours vrai. Ce qui est important, dans le fond, c'est utiliser un zoom, si possible. Parce que ce qui est intéressant du zoom, trouvez-vous un sujet. Vous pouvez zoomer sur votre sujet, vérifier qu'est-ce qui est intéressant, tout ça, et dézoomer.
Revenez plus large.
Plus large, et là, vous allez pouvoir recadrer votre sujet. Mais tu sais, l'exemple qu'il donne, la photo, j'ai trouvé ça intéressant, c'est des oiseaux. Il dit, moi, au début, il dit, les oiseaux, j'étais comme pas sûr. Il dit, j'ai zoomé, puis j'ai vu, ah, ben, ils sont intéressants, ils ont un petit peu de texture, ils ont des affaires. Fait que là, il s'est mis à dézoomer, puis c'est là qu'il a vu que ça bougeait, ça donnait une certaine vie, ça donnait quelque chose. Fait que des fois, c'est bien de utiliser toute la plage de votre zoom pour voir et bien vérifier qu'est-ce qu'il y en est.
Mm-hmm.
L'autre chose, personnellement, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment vu ou remarqué. Des détails triangulaires dans les coins de photos. Il y a beaucoup de monde que ça fatigue. Ils appellent ça même le baiser de la mort de la photographie. Rien de moins.
OK.
Personnellement,
mais
je vois
que
pas.
Mais qu'est-ce que je comprends pas, là.
Ce qu'ils disent, c'est que ça donne une... comment je pourrais dire, c'est un mouvement non voulu. Parce que les triangles, tout ça, ça t'amène, ça te sort des...
Ça guide le regard.
Le regard hors de la photo. Je trouve que c'est personnellement, peut-être un peu exagéré. Peut-être en tenir compte. Je dis pas que c'est pas désagréable, mais c'est vrai que ça peut avoir tendance à sortir un peu l'œil de la photo.
OK.
De là, appeler ça le baiser de la mort.
Ouais, c'est fort un peu.
C'est fort un peu. Mais encore une fois, mais même la personne qui a écrit l'article n'est pas d'accord avec ça.
Mm-hmm.
Dit que c'est un peu exagéré, mais il dit que c'est peut-être pas mauvais de le garder quand même en tête.
Ouais. Ben en fait, dans l'exemple qu'il donne, c'est vraiment des gros rochers en avant-plan.
Mm-hmm.
Je suis pas sûr que la forme ait un lien direct avec. Dans cet exemple-là, en tout cas. Mais juste le fait qu'il y ait des gros rochers, ça attire le regard parce qu'ils sont un peu... Il y en a qui sont plus clairs que
une autre portion
de l'image. C'est un élément un peu comme s'il y avait une branche qui dépassait ou un truc du genre.
C'est le premier élément là, en premier plan, fait que c'est sûr et certain que ça va t'attirer aussi.
Mais bon, le fait que ça soit en triangle, je ne sais pas si ça a vraiment une incidence.
Je sais pas, j'ai trouvé ça drôle. En tout cas, c'est la première fois que je l'entendais, celle-là.
Ouais, moi aussi.
Le ciel blanc. Y a-t-il rien de plus plate qu'un ciel blanc ou un ciel bleu?
Ouais.
Essayez de prendre quelque chose, un ciel qui a quelque chose dans le ciel. Les nuages, moi j'adore les nuages, je trouve que c'est tellement plus vivant. Un ciel bleu, un ciel blanc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de force, qui est très fort dans ta photo. Fait qu'essayez de penser, quitte à réduire l'espace que votre ciel a dans votre photo, pour essayer de donner l'emphase sur le reste.
Appliquer soit la règle des tiers ou même parfois on peut aller jusqu'à 1/8. Si le ciel n'est pas un élément vraiment important de votre photo, il peut prendre seulement 1/8 de votre photo, à peu près, évidemment, à l'œil. Mais ça ne donne rien de mettre un gros ciel bleu si ce n'est pas ça votre sujet de photo. Disons en Grèce, il y a des maisons qui sont toutes blanches ou très colorées.
Mm-hmm.
Ben, oui, le ciel va faire un beau contraste, mais si c'est pas ça que vous voulez...
Vous n'avez pas besoin de tout le ciel.
C'est ça.
Juste un petit peu va faire la...
de ciel, les maisons vont ressortir d'elles-mêmes parce que l'arrière-plan va être bleu de toute façon.
Puis votre ciel, il peut être intéressant aussi, peut-être un peu sur le côté, si vous arrivez à cadrer votre affaire plutôt que de le mettre en haut.
Oui.
Ça avec, ça peut être intéressant. Tu peux le voir entre deux édifices, que tu vois juste une petite tranche de ciel.
Mm-hmm.
Pensez à ça. Le ciel, s'il est... Oh, il y a l'expression plain, s'il est vanille, s'il n'y a rien, ben... S'il est plate pour vos yeux, il va être plate pour votre photo.
Mm.
Se dire, je vais repasser pour le photographier.
Ah ouais.
Non.
Ne jamais faire cette erreur.
J'ai le meilleur exemple de ça. quand je prends le train, il y a je sais pas si c'est à Pointe-Claire. Ouais, ça doit être à Pointe-Claire. Il y avait une maison que je passais tous les matins devant, que je trouvais qui était la parfaite maison hantée.
Oh, attends, c'était l'imparfait, ton histoire, là.
Ouais. Mais j'adorais cette maison-là. Elle était superbe. Elle était juste assez délabrée, pas trop. Puis je me disais tous les soirs, puis elle était dans un cul-de-sac en plus. Puis je la voyais du train, puis je me disais, maudit, faut que j'y aille. Puis un matin, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 2-3 semaines, je regarde, la maison n'est plus là. Ils l'ont mis à terre. Fait que, tu sais, là, je vais revenir à un moment donné, là. Non.
Ne remettez pas la demain.
Comme dit Yoda, fais-le ou ne le fais pas. Dis-toi, tu sais, si vous avez le temps, là, c'est le temps là, là. Peut-être plus tard, vous aurez plus le temps. Il va peut-être avoir quelque chose qui va être modifié, qui ne sera plus là. Faites-le.
Un autre exemple, récemment, j'étais à Ottawa, puis je passe devant le Parlement, puis il y avait beaucoup de nuages. C'était gris, puis j'ai dit, je vais aller manger, puis je vais revenir. Puis finalement, pendant que je mange, le ciel se dégage, il fait beau soleil, tout ça. Puis là, ben, le temps que je finisse de manger, je reviens, je repasse devant, encore des nuages. Puis là, le soleil est en train de se coucher en plus. Et j'ai dit, bon, soit que j'attends comme 40 minutes, ou ben, j'ai pas de photo. Ben, finalement, je suis reparti. Mais il aurait fallu que je reste peut-être 10 minutes la première fois pour avoir la belle photo. Mais j'ai pas pris le temps de regarder si le ciel allait s'éclaircir et que j'aurais pu prendre ma photo avant d'aller manger. Mais finalement, j'ai préféré aller manger, puis là, ben, j'ai raté mon opportunité.
Ça t'apprendra à penser que ton estomac aussi.
Ouais, je sais. J'essaie d'arrêter.
La luminosité, la mauvaise luminosité. Vous savez, si vous n'avez pas assez de luminosité, gênez-vous pas pour monter votre ISO. Oui, ça va avoir un effet. Oui, vous allez pouvoir peut-être perdre un peu de détails, de choses comme ça, mais vaut mieux une photo qui a un peu de bruit que pas de photo.
Mm. Absolument.
Tu sais, je veux dire, je le vis fréquemment, on en a déjà parlé, mon 7D, il commence à être assez dépassé de ce côté-là. Ben, je me gêne pas. J'en ai pris des photos à 3200 ISO, puis je les nettoie par après. Quand le sujet n'est pas trop noir, qu'il y a un peu de luminosité, vous allez remarquer que c'est plus facile à les corriger. C'est pas parfait, mais c'est plus facile. Si c'est très, très noir, ben là, vous êtes un peu fait. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut y faire. Gardez votre appareil photo bas. Ça peut être intéressant d'avoir une perspective différente. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé, mais c'est important.
Ouais.
Pas besoin de toujours avoir votre appareil photo à la hauteur des épaules. Mettez-vous à genoux, descendez, bougez. Des fois, d'avoir le sol qui est un petit peu plus long, qui est un peu plus devant vous, ça peut être intéressant, ça peut être l'eau, ça... n'importe quoi. Là.
Ben, surtout si votre sujet est bas aussi.
Mm-hmm.
J'en parlerai au prochain épisode, mais tout récemment, je suis allé faire de la photo dans les îles de Boucherville. Puis, il y avait des petites couleuvres. Puis, au lieu de la prendre de haut, tu sais... J'ai mis mon appareil presque par terre, puis je l'ai pris plus au même niveau que...
À vue de couleuvre.
Ça se dit, ça?
Non, mais ça doit être beaucoup plus intéressant parce que tu vois un peu plus le paysage, pas juste la couleuvre.
Ouais, ben, on voit pas vraiment le paysage parce que j'ai pas redressé peut-être... J'étais vraiment pas par terre dans les cailloux, là, mais on voit quand même que l'angle est différent, puis on est à la hauteur de la couleuvre, là, au lieu de la prendre du dessus. Là. On est vraiment à la hauteur des yeux ou à peu près.
C'est plus tridimensionnel que deux-dimensionnel, comme si ça avait été pris exactement du dessus.
C'est ça, exactement.
Autre affaire importante, c'est trouver un élément accrocheur, un sujet dans votre photo. C'est bien de prendre un paysage, mais un paysage qui n'a rien, ben, il n'y a rien.
Il n'y a rien.
C'est ça, je veux dire... Si vous avez... Le photographe a un excellent exemple qui est deux photos. Il y en a une qui a un canot, puis il y en a une qui n'a pas de canot.
Mm.
C'est la même photo, le même paysage. Le canot est beaucoup plus intéressant.
Sur la deuxième, le canot a coulé. On est plus triste. Mais c'est vrai, l'élément est en avant-plan. Le canot, tout de suite, on le voit. Tandis que la deuxième image, tu dis,
c'est pas que c'est mauvais,
mais...
Mais c'est moins intéressant.
C'est drôlement moins intéressant. Quand tu vois le comparatif, quand tu peux comparer les deux, c'est drôlement moins intéressant la photo où il n'y a pas de canot.
Fait que trouvez-vous une petite maison, une clôture, une roche, n'importe quoi, tant que c'est quelque chose qui est intéressant pour l'œil.
Mm.
Puis, ben, ça, c'est une question de planification, mais arrangez-vous donc pour voyager au bon temps de l'année. Parce que ça a ramassé aux États-Unis, en Floride, alors que, je sais pas, moi,
c'est la saison des ouragans.
C'est ça, exactement. Tu sais, c'est moche, il n'y a pas de luminosité. Aller en Islande, mais se ramasser en plein été, ben c'est peut-être pas nécessairement ce que tu veux non plus. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux voir. Tu sais, l'Islande, il y en a beaucoup qui considèrent assez froid, c'est des photos.
Oui, mais il y a des gens qui y vont pour au moment de l'année où le soleil ne se couche jamais parce que tu as toujours le magic hour, toujours l'heure du coucher de soleil.
Mais encore une fois, c'est la même chose. C'est voyager au bon temps de l'année pour qu'est-ce que tu veux faire.
Exactement.
C'est juste être prévoyant. Vous voulez faire quelque chose, ben pensez à votre affaire en conséquence. Encore une fois, c'est assumant que vous allez là pour faire des photos. Là.
Ben, si vous allez en Islande, je vous suggère fortement d'apporter un appareil photo.
pour avoir vu les photos de l'Islande de ma cousine, définitivement, oui.
C'est une destination très prisée par des photographes c'est très professionnels. Beau. Puis,
c'est froid, là. C'est dur, mais c'est beau. Ouais.
Ben, comme ceux qui vont en Alaska pour photographier les aigles. À un moment donné, oui, c'est froid, mais c'est le prix à payer pour avoir des photos d'aigle incroyables.
Ouais, des paysages aussi, quand même.
Des paysages aussi, effectivement. Ben, merci, Christian, pour ces judicieux conseils. Et François, toi, de ton côté, tu as des pensées et citations photographiques à nous présenter.
Oui, je me dis que ça vaut la peine d'aller un peu dans l'introspection puis de penser un peu à ce qu'on fait, ce qu'on aime faire. Fait que je vais vous donner quelques pensées à réfléchir. La définition d'un photographe professionnel. Un pro ne montre jamais à personne ses erreurs. Combien de photographes ça prend pour changer une lumière? 50. Un pour la changer et les 49 autres pour dire « Hey, j'aurais pu le faire. » La façon la plus rapide de faire de l'argent en photographie, c'est de vendre votre caméra.
Oh.
C'est un peu vrai,
par exemple. On en connaît un qui connaît vraiment ça, d'ailleurs.
Ouais. Non, moi, c'est juste que ça coûte moins cher. C'est pas pour faire de l'argent.
Ah, OK.
Minolta font les meilleurs boîtiers. Nikon font les meilleurs objectifs. Canon font les meilleurs compromis.
Oh.
C'est bon, faut apprendre à rire de vous un peu.
Oh, moi, je ris très bien. Je suis pas le propriétaire puis j'ai pas d'action. Fait que moi, ça me dérange pas du tout.
Tout le monde a une mémoire photographique. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui ont pas de carte mémoire.
Oh, ça, c'est profond, par exemple. Oui. Ça, c'est... Oui.
C'était tout.
Merci, Stromgol.
Ça fait plaisir.
Bon.
Si vous êtes dans le mood, je peux...
on vient de rentabiliser la console juste ce soir.
Ah oui, définitivement.
Ça me fait plaisir. J'avais pensé à ça depuis longtemps. J'ai une petite histoire comme ça à vous raconter si jamais vous êtes dans le mood.
Vas-y.
C'est un photographe d'un magazine très connu qui était assigné à une couverture des feux de forêt dans le nord du Québec.
OK.
Le magazine veut montrer comment les pompiers combattent le brasier. Fait qu'arrivé sur place, ben, le photographe, il se rend compte que la fumée est si épaisse que c'est vraiment impossible d'avoir une bonne photo, là, tu sais, au sol. Fait que il décide d'affréter un avion. Fait qu'il prend des arrangements. Puis on lui dit, parfait, tu vas aller te rendre à l'aéroport du coin pour aller faire tes photos. Fait que c'est parfait. Il arrive à l'aéroport, puis il voit un avion en train de réchauffer ses moteurs sur le tarmac. Il saute dans l'avion. Il dit au gars, let's go, on y va. Fait que là, hey, l'avion décolle tout de suite. Ça part dans les airs, tout ça. Puis à un moment donné, ben, il dit au gars, « OK, là, je voudrais que tu passes au-dessus du feu, puis tu vas faire deux trois passes à basse altitude pour que je puisse avoir des bonnes photos. T'sais. » Fait que le gars, il dit, « Pourquoi tu veux que je fasse ça? » Ben, le photographe, il dit, « Ben, parce que je suis un photographe, puis moi, ben, je prends des photos. » Là, il y a un gros silence dans le cockpit. Là, le gars, il dit, « Tu veux dire que t'es pas un instructeur de vol?
» Oh!
Toudoum!
Et c'est sur ça qu'ils s'écrasèrent et rendent beaucoup de joie.
Ah, on peut deviner le reste de l'histoire.
Ouais.
Il est quand même bon, par exemple. Il réussit à décoller sans instructeur de vol. C'est quand même un bon départ.
Ouais. Il avait fait ses débuts de cours.
Ben, merci, François, pour ce segment.
Ben, de rien.
Je sais pas si on devrait réutiliser l'effet ou le retirer. Je suis comme ambivalent.
Moi, j'ai envie de changer de console. Elle est corrompue.
Maintenant. Moi, je vous promets que je reviens avec d'autres pensées à une de ces émissions profonde. Futures. Ouais.
D'accord. Moi, de mon côté, j'ai trois exemples qui peuvent vous aider à relancer votre intérêt pour la photo, parce que ça peut arriver à un moment de l'année ou un moment de votre vie où vous avez moins envie de faire de la photo. Puis...
Un bon petit coup de pied, hein?
Dans la
bonne place.
Dans l'arrière-train.
Ouais.
Alors, premier conseil, ben c'est ça. C'est de se créer des petits défis, pas des trucs insurmontables ou impossibles à réaliser, là. Vraiment... On se donne les moyens de reprendre le goût de faire de la photo. Puis, ben, toi, François, ça me fait penser que, oui, tu dis délaisser un peu la photo côté réflexe, mais tu te sers toujours de ton téléphone. Puis ça, c'est le premier conseil. Utilisez votre téléphone, pas votre tablette. Utilisez votre téléphone.
Une tablette, ça ne prend pas de photo.
Non, non.
Il n'y en a aucune façon d'en faire.
Il y a un truc qui ressemble à un objectif, mais non, ça ne sert à rien sur une tablette.
Ouais, s'il vous plaît.
Alors, voilà. Prenez votre appareil et déplacez-vous. Allez dans des endroits, puis, bien évidemment, ne mettez pas votre sécurité en danger, ni faites-vous pas arrêter non plus par les autorités, mais allez dans des endroits avec votre téléphone et faites de la photo pour le simple et pur plaisir de la chose. Donc, que ce soit dans une gare ou un endroit passant où vous allez avoir des sujets sans nécessairement pouvoir identifier les gens, parce que c'est plus ça qui peut être problématique, là. Mais si vous allez dans un endroit, puis votre scène, c'est des gens qui passent, des gens qui vont chercher, qui vont prendre le train, le métro, peu importe, le RER pour ceux qui sont à Paris. Mmh. Donc, ça peut être une façon de vous redonner le goût de faire de la photo. Vous allez en sortir une ou deux que vous allez trouver bonne, meilleure que les autres, puis vous allez dire « Ah oui, si seulement j'avais eu mon appareil! » Voilà, c'est un signe où l'intérêt revient pour la photo. Un autre truc, ça pourrait être de jouer avec la lumière invisible. On en parlait au dernier épisode, l'infrarouge. Donc, c'est possible soit d'équiper votre appareil photo avec un capteur infrarouge ou soit d'y aller avec un filtre qui vous permettrait de prendre des photos infrarouges. Donc, c'est sûr que ça peut nécessiter un investissement de votre part, évidemment, mais la photo à l'infrarouge, ça donne des résultats vraiment... Ça peut être spectaculaire, là, dans le cas de la nature même. Vous allez voir des arbres avec des feuilles blanches, puis le tronc noir, des trucs auxquels on n'est pas habitué nécessairement. Donc, c'est ça. Avec un filtre, généralement, il y a des filtres qui se vissent, qui servent à faire de la photo infrarouge. Donc, c'est peut-être quelque chose que j'essaierai à un moment donné, mais parce que ça peut être intéressant là, de faire un type de photo complètement différent qui ne reflète pas nécessairement la réalité. On est habitué à prendre une photo, puis on essaie que ça représente le plus possible la réalité, même si on fait de la retouche après ou peu importe. Mais d'y aller avec un truc qui va nous donner un résultat différent de ce qu'on voyait à ce moment-là, ça peut être drôlement intéressant aussi. Donc, ça peut relancer notre intérêt pour la photo. Et le troisième exemple, le troisième conseil que je peux donner, c'est d'ajouter un élément, d'ajouter de la distorsion dans vos photos. Donc, d'utiliser un objectif fisheye ou à très grand angle pour que le sujet photographié soit un peu distorsionné, justement. Donc, qu'il y ait
modifié.
Donc, on a de la difficulté à avoir une ligne d'horizon droite ou un building droit ou des trucs comme ça. Ou d'aller chercher carrément un angle que notre œil n'est pas habitué de voir. Donc, nous, notre œil, on dit qu'on est habitué de voir à quoi? L'équivalent d'un 35 mm à peu près, je pense.
Oui, c'est ce qu'on dit. Mmh. Ouais.
Donc, déjà, si vous allez chercher un 10-12 mm, ça fait un angle de vision drôlement différent de ce à quoi on est habitué. Donc, puis on peut aller chercher des paysages plus intéressants comme ça que si on a un angle plus fermé.
Ben, justement, quand je voyage, j'amène mon kit là, d'objectifs. Ouais, ouais. Si, des fois, j'ai des endroits qui sont vraiment intéressants, mais je prends une photo, je ne suis pas capable de rendre ça intéressant. Je sors ma 8 mm qui va carrément donner quelque chose de complètement différent. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ça vient changer complètement la perspective, même si c'est complètement déformé. Il y a un exemple, une mosquée à un moment donné que j'ai pris en photo. Il y avait tellement des tours hautes que c'était dur à cadrer de façon...
Ouais, tu pouvais pas te reculer assez.
Non, ou... il fallait que je fasse plusieurs photos pour les mettre ensemble après en post-production.
Ouais.
Mais avec l'objectif, OK, c'était déformé, mais ça l'a donné de quoi tellement intéressant. Mm-hmm. Visuellement, c'était un test que je faisais. Je vais essayer un 8 mm pour voir. Puis voilà, ça marchait très bien. Puis moi qui n'avais pas perdu encore la foi en faire de la photo, ben j'étais quand même excité de voir ça. Tu sais, waouh, OK, j'ai un bel effet. Je traîne cette lentille-là avec moi, cet objectif-là avec moi depuis longtemps. Puis hop, je la sors pas tout le temps. Mais...
Sinon, ben justement, sans nécessairement déformer le paysage ou votre sujet, ou en le déformant aussi, prenez des photos à des moments de la journée ou même de la nuit auxquels vous n'êtes pas habitué de faire de la photo.
Mm-hmm.
Donc, déjà, les résultats vont être différents. Si vous sortez aux petites heures du matin où il n'y a presque personne sur la rue, ça va donner des photos différentes, plus intéressantes. L'éclairage va être différent. Et puis, si vous n'allez jamais faire de la photo quand il pleut ou quand il y a un ciel orageux, ben allez-y. Ça va changer, justement, votre vision du ciel ou ça change l'éclairage aussi de la scène, veut pas. Donc, des petits trucs comme ça pour... relancer l'intérêt un peu en photo. On passe maintenant aux suggestions de la semaine. François, de ton côté, qu'est-ce que tu as à nous suggérer?
Bien, suite à l'émission, notre dernière émission, j'ai trouvé un photographe que je trouve super intéressant à suivre. Mm-hmm. Il s'appelle Marc Adamus. Okay. J'ai vu ça sur le site de 500pics.
Oui, le nom me dit quelque chose.
Bien, ils ont, sur le site, ils ont décidé de faire une série sur les photographes. 24 heures dans la vie de... Alors, dans ce cas-ci, c'est Marc Adamus, qui est un photographe de plein air émérite. Tu as peut-être déjà vu ses photos parce que...
Non, j'ai vu le tweet passer.
Ah, OK.
Contrairement à toi.
Bon, mais...
non, regarde, c'est ça. En réalité, il est sur Twitter, mais il veut juste pas l'admettre.
Ah, c'est ça.
Ah, non. Sinon, j'allais dire que tu l'aurais peut-être vu dans les publications suivantes. National Geographic, Digital Photographer, Popular Photography... Outdoor photographer. Il y en a d'autres, j'ai nommé les plus connus, je dirais.
Okay.
Donc, c'est pas un deux de pique, le
gars.
Il est
très prolifique.
Exactement. Puis, tu sais, c'est un photographe de plein air, mais là, c'est du vrai plein air.
Mm-hmm.
Le gars, il part deux semaines avec son kit de base, sa nourriture, deux livres de nourriture par jour. Tu sais, tout est calculé. Le gars, il en fait depuis longtemps. Puis c'est toujours loin de la civilisation. Il y a des ours qu'il peut rencontrer, tout ça.
Il est à Laval, finalement.
Oui.
J'allais dire au Québec.
Oui, c'est ça. Exactement.
Il est dans le 4-5-0 quelque part.
Oui, il est dans un 4-5-0 non loin de chez vous. Donc, on le suit sur l'article que je vous parle. On le suit pendant 24 heures. Il décrit sa journée. C'est franchement intéressant parce qu'il parle pas juste de photos. Il parle des conditions.
Attends. OK. Parce que j'étais pour dire, c'est pas des photos juste d'une journée là, qu'on voit là. Il décrit sa journée, mais il met des photos.
Le lien que je vous propose, on voit plusieurs de ses plus belles photos.
Okay.
Mais c'est un texte là, qu'il y a à lire. Et ça y va heure par heure. Là,
OK.
Ses photos sont vraiment belles, comme vous pouvez voir. Lui, il est connu... pour ses techniques de prendre plusieurs photos pour les assembler après.
Okay.
Bon, pour toutes sortes de raisons, les expositions, mais aussi les mouvements.
Oui, je m'en suis douté tantôt, parce qu'il y avait un magnifique ciel, puis tout ça, puis il y avait un personnage debout, j'étais comme...
Ben non, c'est ça. C'est du HDR.
Je ne croirais pas.
C'est du HDR, mais aussi, il y a plusieurs techniques, il ne dit pas tous ses secrets, évidemment, mais tu peux voir qu'il utilise des longues expositions avec des expositions normales. Donc, quand il y a de l'eau, ça devient un peu plus laiteux, mais s'il y a des oiseaux, ils sont bien figés.
Ouais.
Fait que il y a beaucoup
du montage de photos. C'est correct.
Oui, c'est ça. Donc, si ça vous intéresse, ce genre, si vous, premièrement, vous êtes des randonneurs, puis que ça vous intéresse de savoir un peu qu'est-ce qu'il amène comme équipement, comment qu'il range ça dans son sac, parce qu'il parle un peu de ça, je vous suggère d'aller voir ça. Ça, la photo qu'on voit présentement, je vais essayer de vous la décrire. C'est en pleine forêt, le soleil perce au travers des arbres. C'est très tôt le matin.
C'est féerique.
C'est super beau. C'est vraiment, c'est presque une peinture.
Il y a du montage à l'os. Ben oui. Parce que c'est beaucoup trop coloré, le vert, mais pourtant, ton eau n'est pas assez laiteuse. Puis t'as le rayon de soleil. Fait que c'est sûr qu'il y a du montage. Ce qui n'est pas un reproche, là. Je veux juste dire qu'il y a du montage.
En passant, toutes ces photos sont montées.
Mm-hmm,
il y a rien qui est... Lui, il s'est fait sa marque comme ça. bon, on l'accepte-tu, on l'accepte pas?
Moi, ça... je l'accepte très bien. Pour c'est moi, c'est l'utilisation d'un médium.
Ouais.
C'est comme ceux qui font de la peinture, mais qui décident d'insérer des photos, des coupeurs de papier, des affaires de même. Non, c'est plus de la peinture, mais ça reste un médium tout à fait valide, là.
Oui, oui. En tout cas, allez voir ça. C'est
très joli.
C'est vraiment des belles photos.
Ben, merci beaucoup. Et de mon côté, comme je l'avais mentionné au dernier épisode, j'avais un photographe à proposer. Et lui, il s'appelle Matt Stewart. Et la galerie que j'ai choisie s'appelle Matt Stewart Shoots People. Oh, donc,
pourquoi qu'il tire?
C'est ça. Donc,
ah, OK, j'ai pas compris. Okay.
Photographie des gens dans toutes sortes de situations. Il y en a en couleur, il y en a en noir et blanc, il y en a vraiment de tous les styles. Et il y a des photos prises au bon moment, si on veut, qui donnent des effets un peu humoristiques. On a une affiche où il y a un grand doigt qui pointe sur le nez de quelqu'un, des trucs comme ça. Donc, c'est l'art de...
Sur une affiche, le publicitaire.
Sur une affiche, c'est ça.
Ouais.
Donc, au moment de... c'est l'art de se placer au bon endroit, au
et
bon moment.
Et de trouver un sujet.
Et de trouver un sujet. Donc, il y a vraiment un peu de tout. Il y a une bonne touche d'humour, il y a des scènes quotidiennes, il y a vraiment, de toutes sortes de photos. Ça peut être un métro qui part. Il y a un wagon de métro où on voit un type assis avec un extraterrestre gonflable à côté de lui. Il y a vraiment, oui, pourquoi pas. Il y a vraiment de toutes sortes de trucs. Je vais vous la montrer juste deux secondes, mais alors voilà. Vous irez voir, je vais mettre le lien.
Ah sur, oui, la photo est prise du quai.
Oui, le type est sur le quai, le métro a les portes ouvertes, et puis on voit quelqu'un d'assis dans le métro avec un extraterrestre gonflable.
On aimerait ça savoir l'histoire.
Oui,
ouais, c'est quand ça. Même, hein, j'avoue. Hein, c'est
ça qui fait que c'est intéressant, la
oui.
photo.
Ben oui, elle raconte une histoire, ou en tout cas, on se pose des questions sur l'histoire qu'elle pourrait raconter.
Ouais, ouais.
Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait...
C'est très WTF.
Oui, c'est ça.
Je vous laisse deviner, ça veut dire quoi.
Donc,
voilà. De casser.
Alors, toi, Christian, de ton côté, qu'est-ce que tu avais comme suggestion cette semaine?
Une petite application pour iPhone ProCam 2. C'est quoi l'application? Parce que dans le fond, on a des applications téléphoniques, il y en a une, puis il y en a une autre. Ce qui est intéressant de celle-là, c'est la première qui utilise le mode manuel pour iOS 8. Ceux qui ont passé à iOS 8. Ce qui est super intéressant, entre autres, de celle-là, tout à l'heure, on parlait du niveau. Eh bien, le niveau est intégré à l'application. Alors, si on tourne, on voit le carré rouge qui nous dit quel est le niveau qu'on doit garder.
C'est super intéressant.
Ben, c'est bien, visuel, sincèrement. Hein. Je veux dire, ça nous permet toujours de le garder droit.
Ben, puis au lieu d'avoir une simple ligne, je trouve ça intéressant.
C'est plus visuel comme ça, moi, je trouve.
Oui, c'est beaucoup plus visuel.
Mais on peut également choisir l'ISO, l'ouverture. On peut changer le format de nos photos si on le veut, vidéo. Vous n'avez pas idée, sincèrement, les menus, là, c'est incroyable tout ce qu'on peut choisir.
On peut avoir la mesure de luminosité spot, focus spot aussi, compensation d'exposition.
C'est vraiment, là, quand ils disent que c'est full manuel, ils niaisent pas, là. C'est vraiment tout ce que vous pouvez mettre sur une caméra, sur un appareil photo normal, quasiment. Elle a un seul défaut, elle est payante. Puis n'est pas donné. C'est pas la fin du monde.
Ouais, pas donné, c'est quoi, 2$?
Elle est en vente.
Ah, OK.
Elle est en vente à 50% de rabais. Je sais pas si elle l'est encore.
Je vais me dépêcher. Parce que...
Mais moi, je l'ai trouvé quand même pas si mal. L'article où il en parlait, il trouvait que les menus étaient pas toujours faciles à utiliser. Je peux pas dire que je suis d'accord. Moi, il y a beaucoup de stock. Mais pour quelqu'un qui se connaît un peu en photographie, c'est pas rien de spécial, là. Mm-hmm. Fait que c'est bien, là, rien d'exceptionnel, mais c'est une bonne application.
Ben, je vais l'essayer, je viens de l'obtenir en spécial.
Bon, excellent.
C'est 1,99$, sinon le prix, c'est quoi, 3,99$?
Je pense que,
mais c'est pas très cher, on paye centaines de dollars un appareil photo. Là, on obtient les contrôles manuels sur l'appareil du iPhone pour 2 ou 4$.
C'est plus parce qu'on est tellement rendu habitué d'avoir des applications pour 1$ ou carrément gratuites qu'à un moment donné, 2$ ou 4$, ça commence à être presque... dispendieux.
Ouais.
C'est plus dans ce sens-là.
Mm-hmm. Parfait. Ben, merci. Bonne suggestion. J'ai hâte de l'essayer. Alors voilà, ça conclut ce 65e épisode. Merci Christian.
À la prochaine, Stéphane.
Merci, François.
Merci.
Et merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions à podcast@objectifnumérique.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est O Numérique, et sur Facebook et Google+, Objectif Numérique. Au cours des prochains épisodes, on va essayer de vous présenter encore des photographes et peut-être vous donner d'autres trucs, Lightroom entre autres, des trucs du genre. Donc, beaucoup de choses au menu pour les prochains épisodes, des tests peut-être de logiciels ou d'appareils photo, on verra.
Puis gênez-vous pas de nous donner des suggestions, comme il a dit, des fois, si vous avez des choses que vous n'avez pas entendu parler, ça pourrait être intéressant aussi qu'on les partage.
Donc, d'ici là, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!